Bonjour à tous, vous êtes sur Globule Radio sur le 90.5 FM. Nous sommes vendredi 15 novembre. Je suis Charlotte Madère et aujourd'hui est une journée un peu spéciale puisque nous sommes à Salvan, dans la vallée du Trien, dans le très beau théâtre du Vieux Mazot. Nous accueillons au micro 10 élèves pour leur baptême de direct. Ils ont entre 11 et 12 ans et pendant un mois, ils ont participé avec leur enseignante Lauriane Reva et l'équipe de Globule Radio à un atelier de journalisme et ils ont hâte de vous présenter leur travail. Ayla, Robin, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va? Vous n'êtes pas trop stressés?
Non.
Non, ça va.
Très bien. Je vous laisse les micros pendant une heure et demie pour cette émission qui vous appartient. Nous enchaînerons ensuite avec des invités pour une deuxième partie d'émission consacrée au système éducatif en Suisse et à la découverte de la vallée du Trien.
C'est Robin et là.
Bonjour.
Nous sommes en direct sur Globule Radio.
Nous sommes dans la classe des 8 âges de Salvan. Salvan est un petit village de 1400 habitants situé en Suisse.
Ce mois-ci, nous avons participé à un atelier organisé par Globule Radio. Nous avons les cours tous les vendredis matins afin de découvrir les divers métiers de la radio.
Ça nous a beaucoup inspirés. C'était très sympa. D'ailleurs, nous remercions Globule Radio pour tous ses déplacements afin de nous instruire.
La compagnie du Mont-Blanc nous a offert des passes pour l'Aiguille du Midi afin de rencontrer les professionnels de la vallée de Chamonix. Dans cette émission, on a décidé de séparer des parties pour en faire plusieurs thématiques.
Maintenant, on va laisser parler nos deux camarades, Roman et Mathéo, sur le thème de la nourriture. Je les laisse se présenter.
Bonjour, moi c'est Mathéo, je vis à Salvan, j'ai 11 ans et je joue de la guitare. Ma plus grande folie est un concert sur deux soirs avec des potes de l'atelier junior. On se retrouve après Crown de Billie Eilish. Visions I've vandalized, cold in my kingdom size, fell for these ocean eyes. You should see me in a crown. I'm gonna run, there's nothing to tell. Watch me make them bow. One by, one by, one.
Salut,
je m'appelle Roman, j'ai 11 ans, je fais de la grimpe et du piano. J'habite à la Médéta qui se situe dans la commune de Selvan. Vous vous trouvez actuellement sur la chaîne de radio 90.5 ou Globule Radio. Vendredi 11 octobre, nous sommes allés à Chamonix. À la gare, j'ai eu la chance de pouvoir interviewer Gérard Berru, boulanger. Il nous a parlé de son célèbre pain de Chibon. La première question que je lui ai posée est « Quand a-t-il commencé son activité de boulanger ?»
Alors, j'ai commencé au tout début en 2013. C'était le début de mon activité. Mais à l'époque, c'était vraiment le tout début. Je suis autodidacte. Cela signifie que je n'ai jamais appris à faire du pain. J'ai appris tout seul. Et du coup, au début, mon pain était très médiocre.
Quel pain avez-vous fait ou inventé en premier ?
Alors, en fait, rapidement, j'ai essayé de mettre en place une technologie qui me convienne. Et du coup, j'ai considéré que les petits pains de 500 grammes, les petits pains au levain de 500 grammes, c'était le format qui serait le plus facile à vendre. Donc, c'est le premier pain que j'ai inventé.
Voici une question que peut-être beaucoup de personnes se posent. À quelle heure vous réveillez-vous ?
Alors, ça dépend les jours. Cette nuit, donc aujourd'hui, nous sommes vendredi matin, de la nuit de vendredi à samedi, je ne dors pas du tout. Je dors deux fois 15 minutes. Je fais du pain toute la nuit. Ensuite, je charge mon pain le matin, je vais au marché et je finis de vendre mon pain de la matinée. Et après, donc, je redors deux heures dans l'après-midi.
Quelle est la plus grosse catastrophe que vous ayez faite, comme faire brûler votre pain ?
Ça m'est arrivé malheureusement plusieurs fois. Effectivement, comme je dors très peu. Et parfois, j'étais tellement fatigué de la nuit, donc je mettais mon pain au four et j'avais prévu de dormir 10 minutes ou 15 minutes. Et en fait, j'étais tellement épuisé que malgré deux ou trois alarmes de réveil, je me suis réveillé une heure après et c'est tout carbonisé.
Comment moulez-vous vos grains de blé ?
Alors du coup, je possède une meule à pierre, c'est-à-dire qu'en fait, c'est donc un moulin avec deux pierres, une qui est fixe, qu'on appelle la dormante, une qui tourne, qu'on appelle la volante. Le grain est écrasé entre les deux. Et ensuite, après, j'ai un buteur qui va séparer le son de la farine. Et j'ai pris le parti de faire ma farine fraîche tous les jours, préserver les arômes.
Comment cela se passe-t-il pour aller vendre dans des marchés ?
Alors, en fait, il faut au préalable être inscrit. Du coup, il faut avoir un statut social et fiscal, c'est-à-dire en fait exister en tant qu'entreprise. Et après, effectivement, ben, on sollicite une place. Alors, quand on arrive sur un marché, on n'a pas forcément beaucoup de choix. Donc, on prend ce qu'il est possible de prendre. Et puis, au fur et à mesure qu'on acquiert de l'ancienneté, eh ben, on a la possibilité d'avoir de meilleures places.
Malheureusement, nous arrivons déjà à la dernière question. Alors, combien de temps cela vous prend-il de faire votre pain et comment le faites-vous ?
Alors en fait, voilà, donc je produis moi-même mes céréales. Je cultive une cinquantaine de variétés de blé anciens. L'intérêt, c'est que ces variétés-là contiennent peu de gluten. Je produis mes céréales sans aucun traitement chimique. Je les ramène ensuite ici de la vallée. Donc je fais ma farine fraîche, je produis ma farine fraîche en meule tous les jours, à la fois pour préserver les arômes, mais également pour préserver toute la valeur nutritive du pain. Et je produis mon pain au levain naturel. Ça permet d'avoir un pain qui sera plus savoureux et qui sera également plus facile à digérer.
Et voilà, c'est la fin. Merci de nous avoir accordé du temps. Maintenant que mon interview est finie, nous allons pouvoir diffuser les impressions sur le pain de Chibon. Alors, que pensent les chamanières du pain de Chibon ? Bonjour, nous voudrions faire une critique sur le pain de Chibon. Alors, comment trouvez-vous qu'il est ?
Alors c'est un pain que je trouve très bon, qui est fabriqué artisanalement, donc je trouve ça très intéressant. Et la manière dont il est vendu directement du producteur au consommateur, je trouve ça vraiment très bien.
Alors le pain de Chibon, moi je le trouve super bon, donc ouais, je l'aime bien. Et en plus il dure longtemps dans le temps, il est gros, il est bon.
Bah écoutez, j'en ai déjà mangé souvent, puisque j'en achète régulièrement. Et c'est un monsieur exceptionnel qui fait du pain exceptionnel, il est Chibon son pain.
Comment se conserve-t-il ? Est-ce qu'il se conserve longtemps, pas trop longtemps ?
Alors ça a l'avantage d'être un vrai pain avec des vraies levures, des vraies farines. Et du coup, c'est un pain qui se conserve très longtemps, qui ne se jette pas le lendemain par exemple. Ou alors on ne fait pas de pain perdu avec quoi.
Donc c'est très très pratique. Merci ! Bonjour, nous voudrions faire une critique sur le pain de Chibon.
Bah écoutez, ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé, mais au tout début, j'ai voulu goûter et en effet, c'est un bon pain. Seulement les horaires de l'emplacement du monsieur où il est aux ouches, voilà, ça ne me convient pas vraiment. Mais autrement, voilà, j'ai entendu dire qu'il évoluait bien et c'est très bien pour la vallée de Chamonix.
Moi, je connais déjà le pain Chibon parce qu'il passe à Servoz tous les dimanches matins. J'y suis allée qu'une fois, mais la seule fois que je l'ai goûté, je l'ai trouvé très bon, surtout le pain aux noisettes.
Merci. On remercie vraiment Gérard Berru de faire d'aussi bons pains à Chamonix et d'avoir accepté de venir à notre interview, à notre projet de Globule Radio.
Et voilà Richard Cadoc avec Break the Silence. Bienvenue sur Globule Radio 90.5 FM. Moi, c'est Mathéo et le 11 octobre 2019 à Chamonix, j'ai fait une interview avec Jérémy Darcy, le sous-chef pâtissier des pâtisseries Richard. Je lui ai demandé quelle était sa spécialité.
La spécialité même, en fait, nous, ce qu'il y a, c'est que nos gâteaux, on évolue tout le temps, on les change selon la saison, on va avec la mode, on essaye de surprendre toujours le client à chaque saison pour leur faire plaisir au maximum.
Est-ce que c'est vous qui inventez les recettes de macarons et d'autres gâteaux et choses comme ça ?
Alors comme on est plusieurs dans l'entreprise et donc plusieurs pâtissiers, en fait il y a une personne qui s'occupe de la recherche des parfums et de la création du macaron, et après on est plusieurs à les réaliser ensemble en fait. Parce qu'un macaron, il faut être plusieurs pâtissiers pour le réaliser, de la pâte au collage, à la ganache. Et on essaye de travailler en faisant du tout maison, de l'artisanat au maximum, c'est-à-dire qu'on fabrique toutes les bases de A à Z par nos mains. Et on essaye d'utiliser aussi les meilleurs produits pour un meilleur résultat. Et surtout beaucoup d'amour dans la confection des gâteaux, c'est ça qui compte beaucoup.
Quels sont les gâteaux et macarons préférés de vos clients ?
Alors au niveau des macarons, c'est toujours les macarons aux parfums les plus simples, c'est-à-dire vanille, chocolat, caramel, fraise. Et après nous, dans notre gamme qui compte une quinzaine de macarons, en fait, on en fait toujours aussi quelques parfums, comme j'expliquais tout à l'heure, pour surprendre les clients, des choses nouvelles qui changent de l'ordinaire. Au niveau des macarons, la pire erreur, de toute façon, c'est de complètement rater la recette. Ça peut arriver, mais le principal, c'est toujours de s'apercevoir de sa faute, de se rendre compte, de se remettre en question et de repartir de plus belle à la prochaine recette. L'étape la plus compliquée, c'est vraiment la pâte à macarons. C'est de réussir la pâte, le biscuit croustillant. Il faut qu'elle soit ni trop liquide, ni trop dure. C'est vraiment très technique, mais avec l'expérience, on y vient très vite. C'est dur à réussir la première fois, donc il faut de l'entraînement. De l'entraînement, puisque c'est, comme je vous dis, en pâtisserie, c'est presque le petit gâteau le plus délicat, le plus technique à réaliser. Surtout à la maison, c'est encore plus difficile, puisqu'on n'a pas le matériel ou même les matières premières adéquates. Et souvent, on rate, mais comme je disais tout à l'heure aussi, c'est que faut s'entraîner et comprendre pourquoi on a raté et pour recommencer mieux le lendemain.
Comment fabriquer un macaron avant la dégustation ?
Donc un macaron, ça prend bien plusieurs heures, voire plusieurs jours avant dégustation. C'est-à-dire que le premier jour, vous fabriquez les coques aux amandes. Vous les cuisez, vous les garnissez. Et après, il y a ce qu'on appelle la maturation. C'est-à-dire que vous l'entreposez au réfrigérateur un voire deux jours supplémentaires à la fabrication, pour là développer les arômes, le moelleux, le fait que le macaron soit agréable en bouche et surtout surprenne le client dans sa saveur la plus forte qui peut y avoir. Quoi.
Merci beaucoup pour votre témoignage. Au revoir et à bientôt.
Merci à vous d'être passé. Et puis maintenant, on va déguster les bons macarons.
Jérémy m'a donné des macarons. Et voici mes impressions. Je vais goûter les macarons que nous a gentiment donné Jérémy Darcy pendant l'interview. Alors, je vais commencer avec un macaron de couleur brune avec une ganache brun foncé. La ganache est bonne, la pâte aussi. Délicieux, il est au chocolat. Je passe à présent à un macaron de couleur rose. Celui-là, il est à la framboise. Même commentaire qu'avant, mais je le trouve presque meilleur. Croquant, fondant, vraiment délicieux. Merci Jérémy. Voilà, je remercie encore Jérémy. Et puis maintenant, Ride par 21 Pilots.
Sun where I find, I know it's hard sometimes, pieces of peace in the sun's peace of mind, I know it's hard sometimes, yeah I think about the end just way too much, but it's fun to fantasize, all my enemies who wouldn't wish who I was, but it's fun to fantasize, oh, 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 oh. I'm falling, so I'm taking my time on my time on my ride. Taking my time on my ride. I die for you. Let's
that's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignored them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Taking my time on my ride. Oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time on my ride.
Sur Globule Radio, nous avons écouté Ride de 21 Pilots et maintenant on va aborder la deuxième thématique sur l'aiguille du midi avec Naomi et Tom. Je les laisse se présenter.
Bonjour, je m'appelle Naomi, j'ai 11 ans, j'habite au Marécotte. J'aime bien la danse, le dessin et les animaux. Dans un instant, on va se retrouver pour parler du téléphérique et du pas dans le vide de l'aiguille du midi à Chamonix.
Bonjour, je m'appelle Tom, j'habite aux Granges, au-dessus de Salvan. J'ai 11 ans, j'aime la saucerie. Oh non, à la tomate!
avez écouté Monster par Lumix. Maintenant, passons à l'interview de Tom.
Rebonjour, c'est Tom. J'ai interviewé Eric Cardet, chef d'équipe au plan de l'aiguille à Ray intermédiaire du téléphérique de l'aiguille du Midi. Il y travaille depuis 30 ans. C'était le 11 octobre, un vendredi, à Chamonix. Je lui ai posé quelques questions sur l'aiguille du Midi en elle-même et sur le téléphérique. Je lui ai demandé à quelle hauteur est le sommet de l'aiguille du Midi.
3842 mètres.
Comment fonctionnent les remontées mécaniques d'un point de vue technique ?
Eh ben, on a un câble porteur pour porter la benne et un câble tracteur pour la tirer. Donc c'est tout des moteurs. Après, on a des passages pylônes sur certaines configurations. Autrement, c'est en libre, en aérien.
Combien est-ce qu'il y a de personnes qui utilisent les remontées chaque année et d'où viennent-elles ?
Alors, à l'aiguille du Midi, on est à peu près à 620 000 passages maintenant et ça vient du monde entier.
Quoi consiste votre travail ?
Eh ben, ça dépend du jour. Si je suis en tant que chef d'équipe, c'est un peu m'occuper de l'exploitation et des techniques, donc gérer un peu du personnel. Et si je suis affecté à d'autres tâches, ça peut être tout autre chose.
Quel est l'aspect de votre travail que vous préférez ?
Le relationnel avec le personnel.
Encore merci pour cette interview.
Et maintenant, nous allons écouter l'interview de Naomi.
Rebonjour, c'est Naomi. Je vais vous faire écouter une interview d'Alain Rivéror. Il va vous parler du téléphérique et du pas dans le vide de l'aiguille du Midi à Chamonix. Je voudrais lui poser une première question. Comment la vide du pas dans le vide a-t-elle été construite ?
Donc c'est une entreprise extérieure qui a assemblé les vitrages. Et tout le vitrage est fixé sur la roche, quoi.
En quelle année a-t-elle été construite ?
2014.
Combien y a-t-il de personnes par jour ?
Quasiment, on va dire, ça dépend en fonction de l'affluence, donc c'est en fonction de la saison. Donc ça, si on monte en gros 3000 personnes, il y a 2500 personnes qui vont aller au pas dans le vide. L'installation est en mode automatique, mais parfois il y a des arrêts techniques, donc on est obligé de rapatrier la cabine à quai, et ça peut être fait que par un conducteur téléphérique.
Est-ce que le téléphérique marche tous les jours ?
Tous les jours, à part les journées d'intempéries, fort vent ou orage.
Combien d'allers-retours fait-il par jour ?
Ça c'est pareil, c'est en fonction de la saison et de l'affluence, ça peut aller de 50 à 120.
Combien de personnes peuvent-elles aller dans le téléphérique ?
64 personnes.
Comment le téléphérique a-t-il été construit ?
Le premier câble qui a été amené jusqu'au sommet de l'aiguille du Midi, c'était une petite câblette et ça a été amené par des guides à dos d'homme. Et de là, ils ont raccordé un autre câble et ainsi de suite. Après, ça leur a permis d'acheminer tout le matériel pour construire la gare du sommet. Le premier tronçon, il a été inauguré en 1954 et le deuxième tronçon en 1955.
Et quel type de câble utilisez-vous pour faire tenir le téléphérique ?
Il y a un câble tracteur pour tracter la cabine, donc la cabine est accrochée sur ce câble, et un câble porteur, donc la cabine se déplace dessus, roule dessus.
Merci de nous avoir laissé vous interviewer.
Je vais maintenant prendre la parole et poser quelques questions concernant les impressions de mes camarades sur l'aiguille du Midi. Mathéo, qu'as-tu ressenti lors de notre sortie à l'aiguille du Midi ?
Alors j'ai trouvé ça très cool, surtout qu'on a pu revoir de la neige après assez longtemps. Ce que j'ai préféré, c'est le pas dans le vide avec ses mètres et ses mètres en dessous de nos pieds. C'était très impressionnant.
Et toi, Roman ?
Alors j'ai trouvé ça très beau, le paysage. Et surtout qu'il y avait, quand on passait sur un pylône, on avait l'impression de tomber et c'était ça qui était assez époustouflant.
Et toi, Tom ?
J'ai eu très, très, très peur.
Merci de nous avoir donné votre opinion. Et à présent, continuons avec la musique Bird des Imagine Dragons.
Two hearts, one valve. with a body and two lives, one life, sticking it out, letting you down, making it right. Watching the leaves changing the seasons. Some nights I think of you. Reliving the past, wishing it lasts, wishing and dreaming. Seasons they will change, life will make you grow. Death can make you hard, hard, hard. Everything is temporary, everything will slide. Love will never die, die, die. I know that you.
Salvant au théâtre du Vieux Mazot. Toujours sur Globule Radio, mais maintenant nous allons passer à Morgane et à la thématique du train. Morgane, je te laisse te présenter.
Bonjour, je suis Morgane, j'ai 13 ans, j'habite au Trétien et ma dernière folie, c'était les cheveux bleus. Vous êtes en direct sur Globule Radio. J'ai interviewé Frédéric Jalabert, responsable pour l'établissement Montblanc Express, qui est à la charge des contrôleurs et des agents d'escale. Nous étions dans le centre d'opération dans la gare de Chamonix le vendredi 11 octobre et nous avions parlé du train Montblanc Express. Tout d'abord, les trains sont-ils plus français ou suisses ?
C'est un train qui est les deux, à la fois français et suisse. Ils desservent de Saint-Gervais à Martigny, qui est une partie de voie, approximativement une quarantaine kilomètres de voie qui est française et une vingtaine à peu près kilomètres de voie qui est suisse. Mais ce n'est pas la quantité qui fait l'identité, c'est plus, une belle collaboration entre les deux pays qui fait qu'aujourd'hui, et deux entreprises, TMR et SNCF, qui fait qu'aujourd'hui on a un train, international, à la fois suisse et français.
Combien y a-t-il de conducteurs qui conduisent ?
Alors, je ne peux pas vous donner des chiffres exacts, puisque comme je vous disais, il y a effectivement des saisonnalités de basse saison et de haute saison, et l'effectif varie en fonction des besoins. Donc déjà, il y a deux équipes, il y a une équipe côté suisse et une équipe de conducteurs côté français, et ces équipes-là fluctuent en fonction des besoins en train et en effectif qu'on peut avoir. Donc je ne peux pas vous donner de chiffres exacts et définitifs.
Combien y a-t-il de personnes par année ?
Alors, la fréquentation du Mont Blanc Express, on peut l'estimer à peu près à 900 000 personnes par an qui empruntent le train. Il y a deux grosses saisons, une saison été, une saison hiver, où la fréquence des trains a largement augmenté depuis cet été, avec un train à la demi-heure sur une partie de la ligne. Cet hiver, c'est un train toutes les heures, aussi sur l'ensemble de la ligne. Et donc, ouais, on peut estimer à peu près à 900 000 personnes par an qui empruntent le Mont Blanc Express.
Que se passe-t-il quand il y a de la neige ?
Dans ce cas-là, eh bien, effectivement, on a des voies et du matériel équipé pour faire face à ces situations-là. Donc, dans un premier temps, on a sur les différents aiguillages, donc ce qui permet l'orientation des trains sur les voies, des réchauffeurs qu'on appelle, donc qui sont soit à gaz, soit électrifiés, qui permettent de chauffer le rail de manière à ce que la neige fonde pour pas gêner l'orientation des rails. Ensuite, on a aussi un engin de déneigement qui s'appelle le CN4, donc chasse-neige numéro 4. Plusieurs chasse-neige en France, ils sont tous numérotés. Et de l'autre côté, d'une fraise qui, dans un second passage, va racler la neige au plus près du rail pour faciliter le passage des trains. Donc ça, c'est l'aspect déneigement. Et ensuite, on a aussi des équipes à pied d'œuvre, donc des équipes humaines, donc des gens qui seront à l'appel, et puis qui se déplacent d'endroit en endroit, soit pour déneiger les aiguilles, soit pour déneiger aussi les quais avec des snowboys, pour que les clients puissent accéder, les voyageurs puissent accéder au train par les quais.
Et que se passe-t-il quand le train percute un animal ?
Eh bien, quand le train percute un animal, donc il s'arrête, quand ça arrive, on fait appel, donc, selon la situation, aux gardes-chasse du coin, avec qui on collabore régulièrement, qui prend acte de la situation et qui, lui, agit avec nos équipes sur place pour soit soustraire l'animal et puis faire appel à un vétérinaire au besoin si on peut, soit si malheureusement l'animal n'a pas résisté à l'incident, s'occupe d'extraire l'animal de l'endroit où il est et puis... Parce que voilà, un animal, on ne le laisse pas au bord de la voie. Non, on l'enlève, on l'extrait, et puis il y a des règles par rapport à ça pour la préservation de la nature et de l'environnement.
Que se passe-t-il si les rails se cassent ou bougent ?
Alors, les rails sont surveillés régulièrement, soit par grand froid, soit par forte chaleur. Et effectivement, une anomalie est constatée, nous avons une équipe sur place qui s'appelle l'équipe voie. Infrastructure qui a des brigades qui sont réparties entre la haute et la basse vallée et interviennent directement sur les voies, sur les rails pour les réparer le plus rapidement possible pour remettre en place la circulation des trains. On a des plages de surveillance également dans la journée qui permettent de faire des vérifications régulières pour voir si l'état de fonctionnement ne gêne pas la sécurité des circulations.
Vous êtes sur Globule Radio
90.5 FM.
Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Cause I don't fucking care at all. You've been out all night, I don't know where you've been. You're slurring all your words, not making any sense. But I don't fucking care at all. Cause I have hella feelings for you. I act like I don't fucking care, like they ain't even there. Cause I have hella feelings for you. I act like I don't fucking care. Cause I'm so fucking scared. I'm only a fool for you. And maybe you're too good for me. I'm only a fool for you. I don't fucking care at all. Oh, oh, oh. Yeah.
pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Cause I don't fucking care at all. You've been out all night, I don't know where you've been. You're slurring all your words, not making any sense. But I don't fucking care at all. Cause I have hella feelings for you. I act like I don't fucking care, like they ain't even there. Cause I have hella feelings for you. I act like I don't fucking care. Cause I'm so fucking scared. I'm only a fool for you.
Blackbird de IDFC. Toujours sur Globule Radio, vous allez faire une visite du musée alpin de Chamonix avec Sylvain et Ayla.
Bonjour, je m'appelle Ayla Martin, j'ai 11 ans, je pratique l'athlétisme et j'habite à Salvan.
Bonjour, je m'appelle Sylvain, j'ai 12 ans, j'habite au Trétien et je fais de la natation.
Le 11 octobre 2019, je suis allée rencontrer Aline Dacosta, une médiatrice culturelle au musée alpin de Chamonix. Je l'ai interviewée sur l'histoire de l'alpinisme et celle du musée alpin. Pour la première question, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle préférait dans son musée alpin.
Eh bien, ce que je préfère, je ne vais pas te donner une seule réponse, mais ce que j'aime dans ce musée, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de thématiques abordées, beaucoup d'objets différents et une grande collection.
En quelle année le musée alpin a-t-il été construit et pour quelles raisons ?
Alors, le musée alpin a été construit grâce à un savoyard qui s'appelle Cusin Berlincourt, qui avait une collection de 70 objets. Et il va donner sa collection à la mairie de Chamonix, qui inaugure le premier musée en 1926. Ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, les collections vont être un petit peu laissées de côté. Et il faudra attendre 1969 pour que le musée alpin soit installé dans ce bâtiment, qui est un ancien palace.
Chamonix est une station réputée pour le ski. Mais alors, quand est-ce que les premiers skis à Chamonix sont-ils apparus ?
Alors, les premiers skis à Chamonix arrivent assez tardivement, puisqu'il faut savoir que le ski a été inventé il y a plus de 5000 ans dans les pays nordiques. Et à Chamonix, ce n'est qu'en 1896 que la première paire de skis fait son apparition, notamment grâce à un médecin, le docteur Michel Payot, qui va utiliser les skis pour aller visiter ses patients. À partir de là, on va découvrir cet objet qui, au départ, est plutôt un moyen de locomotion, on va dire, pour se déplacer. Mais très, très vite, les chamoniards vont commencer à apprécier cet objet. Et surtout, à partir de ce moment-là, ils vont apprécier la neige qu'ils n'aimaient pas jusqu'à présent.
Quelles étaient les intentions des premiers alpinistes de monter des sommets ?
Alors ça, c'est une question intéressante, puisque c'est quelque chose qu'on n'imagine pas forcément. Mais les premières ascensions ont été réalisées dans un but scientifique. De Saussure, un scientifique genevois, vient à Chamonix en 1760 et va avoir cette idée d'atteindre le sommet pour faire des expériences scientifiques. Il va promettre beaucoup d'argent à celui qui trouvera le chemin pour atteindre le sommet du Mont Blanc. Donc toutes les premières ascensions au départ étaient réalisées dans un but scientifique.
Les premiers alpinistes étaient-ils bien sécurisés ?
Alors pas vraiment, puisque au tout début de l'alpinisme, il n'y avait pas de matériel, puisque l'alpinisme n'existait pas. Donc ils prenaient tout simplement ce qu'ils avaient pour travailler dans les champs. Les premiers piolets, c'était des pioches, des haches. Les vêtements, c'était des vêtements qu'ils avaient dans la vie de tous les jours, pas forcément adaptés pour aller en montagne. Donc au niveau sécurité, c'était vraiment pas sécurisé.
Qui fut le premier chamoniard à gravir le Mont Blanc ?
Alors, une fois que De Saussure avait lancé cette proposition d'ascension au Mont Blanc et cette récompense, il y a eu beaucoup de chamoniards qui vont tenter d'atteindre le sommet. Mais ça ne va pas se faire en un jour. Il va falloir attendre 26 ans avant que deux chamoniards, Jacques Balma, qui était un paysan, et le docteur Paccard, atteignent le sommet le 8 août 1786.
Quelles sont les dates importantes de l'alpinisme à Chamonix ?
Alors, les dates importantes, bah forcément, cette première ascension qui se réalise le 8 août 1786. D'autres dates importantes, je dirais, c'est 1821, puisque c'est la création de la Compagnie des guides de Chamonix. Donc ça aussi, c'est une date importante. Et puis, la période qu'on qualifie d'âge d'or de l'alpinisme, qui a duré entre 1854 et 1865. Pendant cette décennie, la plupart des sommets des Alpes ont été conquis.
Pour terminer, j'ai quelques questions à vous poser concernant la grimpe. J'ai entendu parler que vous aviez des chaussons de grimpe d'un champion. Est-ce vrai ?
Effectivement, tu t'es bien renseignée, puisque ça fait pas très longtemps. Nous avons lancé une collecte pour avoir du nouveau matériel dans les collections, puisque tous les objets que nous avons dans le musée sont quand même assez anciens. Et maintenant, on aimerait bien avoir une collection sur l'alpinisme et les sports d'hiver qui va, on va dire, des années 1930 jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a lancé cette collecte grâce aux dons de plusieurs personnes. Nous avons beaucoup d'objets, notamment les chaussons qui ont gagné la Coupe du Monde de difficulté en 2017, puisque ce sont les chaussons de Romain Desgranges.
Je sais que Chamonix accueille chaque année la Coupe du Monde d'escalade. Depuis quand est-ce que Chamonix accueille-t-il cet événement ?
Il me semble que ça fait environ 18 ans que Chamonix organise cette Coupe du Monde.
Et pour finir, quel est le lien qui unit Chamonix et l'escalade ?
Les montagnes, forcément, le terrain. Chamonix est propice à l'escalade, aux randonnées, à l'alpinisme. Et c'est d'ailleurs Roger Frison-Roche qui a participé à la création de l'école d'escalade à Chamonix.
Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et bonne journée.
Bonne journée, merci à toi.
Toujours sur Globule Radio, nous allons écouter Sylvain.
Le 11 octobre, je suis également allée interviewer Aline Dacosta, qui est médiatrice culturelle au musée alpin, et elle va nous parler de l'histoire de la ville de Chamonix. Mais d'abord, je vais lui demander si elle sait d'où vient le nom Chamonix.
Donc Chamonix, c'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup d'historiens ont cherché à savoir l'origine de Chamonix. L'explication la plus probable viendrait du latin campus munitus, qui voudrait dire champ clos.
Quelle est la superficie de Chamonix ?
Alors, la superficie de Chamonix est d'environ 245,5 km².
Et combien y a-t-il de personnes dans la vallée de Chamonix ?
Alors, je n'ai pas exactement les chiffres pour toute la vallée de Chamonix, puisqu'aujourd'hui, c'est une communauté de communes qui est composée de la commune de Valorcine, Chamonix, Les Ouches et Servoz. Mais en tout cas, il me semble que pour le dernier recensement sur Chamonix, il y a environ 9000 habitants.
Quel est votre lieu préféré à Chamonix ?
Mon lieu préféré, je dirais le village des Bois, puisque c'est déjà le village où j'ai grandi. C'est aussi un endroit qui reste encore très naturel dans cette vallée. Et c'est un endroit où descendait à l'époque la mer de glace.
Et quel est le lieu le plus visité de la vallée ?
Alors actuellement, le lieu le plus visité de la vallée, c'est très certainement l'aiguille du Midi. Mais la mer de glace ne doit pas être très loin derrière. En tout cas, à l'époque, c'était la mer de glace et nous avons beaucoup de tableaux au musée alpin puisque c'était le site le plus visité et le plus représenté.
Depuis quand est-ce qu'il y a des personnes à Chamonix ?
Alors, bonne question. On retrouve traces de Chamonix dans les archives au XIe siècle. À ce moment-là, les terres appartiennent à Aymon Ier, comte de Genève. Et il va donner ses terres à l'abbaye de Saint-Michel de la Cluse, qui se trouve en Italie, entre Suse et Turin. Et à ce moment-là, les moines bénédictins vont venir à Chamonix et vont construire notamment l'église de Chamonix, qui s'appelle d'ailleurs l'église Saint-Michel. C'est à partir de ce moment-là que la vie, le village, va commencer à Chamonix.
On dit que Chamonix est la capitale mondiale du ski et de l'alpinisme. Pourquoi ?
Alors, pourquoi Chamonix est la capitale mondiale du ski et de l'alpinisme ? Déjà parce que Chamonix, grâce à cette première ascension du Mont Blanc, on considère que c'est la naissance de l'alpinisme, d'une part. Et puis également, grâce à notre fameuse école nationale, l'ENSA, l'école nationale de ski et d'alpinisme qui se trouve à Chamonix, où les guides passent pour avoir leur diplôme.
Merci de nous avoir accordé votre temps. Bonne journée.
far in moonlight. We dance for hours in the same tequila sunrise. Her body fit right in my hands, la la la. You felt like oh la la la, yeah. I love it when you call me senorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch we do, la la la, it's true, la la la. Oh, I should be running. Oh, you know I love it when you call me senorita. I wish it wasn't so damn hard to leave ya, but every touch is ooh la la la, it's true, la la la. Oh, I should be running. You say we're just friends, but friends don't know the way you taste, la la la. Cause you know it's been a long time coming, don't you let me fall.
C'était Camila Cabello, Señorita. Maintenant que nous en savons plus sur l'histoire de Chamonix, je suis allée voir Catherine Berthet. Elle nous parle des liens qui unissent la vallée du Trien et la vallée de Chamonix. Je lui ai demandé si elle venait souvent dans la vallée du Trien.
Je vais très souvent dans la vallée du Trien parce que j'aime bien m'y promener. Il y a des endroits magnifiques. J'y vais assez régulièrement.
De la route des diligences à la voie de train, tout nous relie. Que pensez-vous de cette entente franco-suisse ?
Je pense que c'est vrai que c'est important de travailler avec les pays voisins. Et en plus, nous, on est situés entre la France et l'Italie. Et la vallée du Trien fait partie de l'espace Mont-Blanc. Donc l'espace Mont-Blanc existe depuis aujourd'hui 30 ans. C'est une coopération volontaire entre les personnes qui vivent dans les trois régions et qui fonctionnent plutôt très bien.
Quels sont nos points communs ?
Bon, on en a beaucoup. Je pense qu'on a eu surtout une histoire commune. Et aujourd'hui, c'est bien cette question parce qu'en fait, on va sans doute avoir l'alpinisme qui va être inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et c'est un travail qu'on a mené en commun avec Courmayeur, Chamonix et côté suisse, Orcières, mais aussi bien sûr la vallée du Trien, parce qu'on est tous concernés. Et on a un autre projet, c'est on travaille sur paysage culturel, tous ensemble aussi, pour pareil, inscrire le massif du Mont Blanc au patrimoine mondial.
Encore merci de nous avoir accordé votre temps. Bonne journée.
Mm-hmm.
on vient d'écouter Crystal Dolphin du groupe Anglewood. Adrien, Jérémy et Robin vont maintenant se présenter pour la thématique ski et luge d'été.
Bonjour, c'est Robin, je suis sur Globule Radio, j'ai 11 ans et j'habite aux Granges.
Bonjour, je m'appelle Adrien, j'ai 11 ans, j'habite au Trétien, un petit village dans la commune de Salvan.
Bonjour, je m'appelle Jérémy, j'habite au Marécotte depuis bientôt 2 ans et avant celui-là, j'habite en Inde. J'aime passer du temps sur mon ordinateur à faire du codage. Le 11 octobre, j'ai eu de la chance d'interviewer Peter Snelzer. Nous avons parlé de sa vie et de la fabrication de skis.
Chaque paire est unique et effectivement fait à la main. Ceci dit, j'utilise des machines de menuiserie de base qui sont évidemment très importantes dans la fabrication. Mais c'est un grand travail de choix de matière, de choix de qualité de bois, d'usinage de ces choix-là, pour finir avec un bon ski à la fin qui va durer longtemps et qui va amener plaisir à son usage.
D'où vient l'inspiration pour fabriquer les skis Rabbit on the Roof?
Je suis un skieur passionné depuis longtemps et je suis aussi un passionné de la fabrication d'objets, en bois notamment. Donc c'est un petit peu le mélange de ces deux passions personnelles et l'intention est vraiment de marier la qualité des matières avec la beauté et la performance pour faire des super skis de freeride. Et ça fait 15 ans maintenant que je fais ça. J'ai commencé en région parisienne où j'habitais pendant un bon période de temps. Et le nom Rabbit on the Roof, c'est parce que j'avais des lapins sur le toit de mon atelier à Paris. Donc pour la petite histoire qui était improbable, je pensais qu'un nom improbable serait très bien.
Pourquoi les skis en bois?
Les skis ont toujours été fabriqués en bois. Quand on regarde nos ancêtres, ils avaient le bois donc, à disposition. Et pour les besoins de transport, ils ont choisi des types de bois spécifiques. Ils s'adaptaient au bois qu'ils avaient aussi, pour faire des choses, des skis qui permettaient de se déplacer dans la neige. Après, à travers l'évolution du ski en tant que sport, l'industrie du ski a été vers le plastique, vers un volume de production qui est énorme. Et moi, j'ai décidé tout simplement de rester avec les essences traditionnellement utilisées par les ancêtres, c'est-à-dire du frêne, qui a une souplesse naturelle, pour en faire des skis modernes. Ce qui veut dire qu'il faut aussi apporter des semelles. Nous, on utilise des semelles de course, des cares pour l'accroche sur la glace, un tout petit peu de fibre moderne pour maintenir le noyau du ski, qui lui est en bois massif, et une deuxième pièce de bois qui lui peut être de beaucoup d'essences différentes pour faire chaque paire unique, jolie et adaptée à la personne qui est censée l'utiliser.
Où est-ce que vous fournissez en bois?
Alors, la plupart du temps, j'essaie de trouver du bois local, c'est-à-dire avec un minimum de transport, d'empreinte carbone, je dirais. Du coup, c'est souvent du bois français. Ça peut être du bois suisse, ça peut être du bois européen. Mais je fais particulièrement attention à ce que ce soit des sources de bois contrôlées, renouvelables et bien gérées au niveau forestier. On a la chance d'avoir du beau frêne en Europe, en France aussi notamment. Donc à ce niveau-là, évidemment c'est très important, j'arrive à me fournir assez localement. Des fois j'arrive même à scier des arbres qu'on m'amène ou qu'on a abattus ici dans la vallée de Chamonix.
Quelles sont les différentes qualités de vos skis?
Alors les skis en bois ont beaucoup de qualités. La qualité principale pour moi vient justement du noyau en bois massif, qui lui est fait d'une seule pièce, dédoublé, c'est-à-dire on va faire le ski droite et gauche avec la même planche de bois. Comme ça, on va avoir un fibre homogène, continu, avec la même croissance et les mêmes qualités mécaniques. Et ça permet d'absorber les vibrations qu'on crée en skiant, surtout avec le ski moderne où on a de grosses chaussures très performantes et fixations avec encore plus de sécurité qu'avant. Mais le bois, lui, a cette propriété d'absorber, un petit peu comme un instrument de musique, tamponner les vibrations qu'on crée sur les différentes surfaces de neige, glacées, moins glacées, poudreuses, et on obtient un énorme confort. Et une souplesse naturelle qui vient de cette matière, une solidité en plus, une durabilité qui est très intéressante. Et donc c'est une recette qui est à la fois très simple et basée uniquement sur la qualité des éléments qu'on met dedans. Et à ce niveau-là, on ne peut pas faire mieux que le bois. Parce que les skis, il faut savoir, c'est un petit peu comme les clubs de golf. C'est-à-dire qu'on en a, on peut en avoir plusieurs et chaque paire va avoir un usage plus ou moins spécifique pour des conditions différentes, comme des grosses journées de poudreuse ou des moments où il n'a pas neigé depuis un moment, mais on est sur des pistes bien damées, bien lisses, ou des skis plus ou moins longs selon le type de terrain où on évolue. Et du coup, c'est des métiers qui apportent beaucoup, beaucoup de plaisir, souvent qui ne sont pas faciles, mais en même temps qui ont cette richesse que de partager non seulement la passion qu'on a pour la fabrication, la création d'objets, mais que les gens en général apprécient, et ça nous embellit notre quotidien et notre monde. Donc c'est des métiers de passion.
Merci beaucoup pour votre participation, au revoir et bonne journée.
C'est Robin. Le 11 octobre, j'ai interviewé Vincent Descombes. Il est né à Chamonix en 1984. Il était athlète de haut niveau sur le circuit de la Coupe du Monde pendant 10 ans. Il a passé 29 années sur les tremplins de saut à ski. Depuis une année, il a repris le poste d'entraîneur de la session de saut à ski de Chamonix. Je lui ai demandé d'où venait sa passion pour le saut à ski.
Et j'ai commencé le saut à ski quand j'avais 5 ans et demi. Et quand j'étais plus jeune, j'habitais dans un village, dans le village des Ouches, où la discipline du saut à ski était très, très importante. Et mon frère aîné pratiquait aussi le saut à ski. Donc du coup, de fil en aiguille, j'allais voir les entraînements et l'entraîneur m'a dit aussi de venir pour essayer la pratique. Et voilà, petit à petit, j'ai continué très très longtemps.
Mais alors, quel est votre record personnel ?
Mon record personnel est de 230,50 m en Norvège, à Vikersund.
Ça fait combien de temps que vous faites du saut à ski ?
J'ai commencé le saut à ski à l'âge de 5 ans et demi et j'ai arrêté il y a un an et demi. J'ai pratiqué la discipline environ 29 années.
Avez-vous déjà gagné des compétitions ?
J'ai gagné plusieurs compétitions sur le circuit national, les Coupes de France, les Championnats de France. J'ai fait plusieurs podiums sur les Coupes d'Europe et pas mal de top 10 en Coupe du Monde.
Avez-vous d'autres passions que le saut à ski ?
Je pratique le VTT. Le vélo de route aussi, et puis la marche en montagne et quelques courses sur, en trail.
Maintenant, petite question sur l'équipement. Combien pèse le ski ?
Le ski, par exemple, un ski de 2,50 m va peser environ 2,5 kg la paire. C'est vrai que maintenant, de plus en plus, le ski est de plus en plus... Il y a une norme, donc c'est à peu près la norme. Un ski de 2,50 m ouais, va faire 2,5 kg. Et voilà, il est très léger, à la différence du ski alpin, où il n'y a pas de quart. En métallique, on a des structures, on a des rainures, donc c'est pas une semelle toute plate. Et le ski est fait en général de nids d'abeilles, et on utilise aussi des autres matériaux comme le carbone ou d'autres choses comme ça.
Alors, faut-il avoir un gabarit spécial pour faire du saut à ski ?
La taille, c'est pas forcément très très important. Il y a des gens qui ont des sauteurs qui ont fait de très très bons résultats, qui faisaient aux alentours des 1m70. Il y a aussi des sauteurs qui font 1m90. Ce qui est très très important, c'est le rapport, on va dire, poids-puissance. Et voilà, et être léger, ça c'est être très très léger, mais être très puissant. Donc c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à régler, à gérer. Mais voilà, non, au niveau de la taille, on peut très bien y arriver si on fait 1m70 ou être plus grand.
Alors quel est votre plus beau souvenir d'athlète et ensuite d'entraîneur ?
Mon plus beau souvenir d'athlète, il y en a plusieurs, mais on va dire que les records de France, parce que j'en ai fait 3, c'était quelque chose de fantastique, parce que on a vraiment l'impression sur ces gros tremplins de voler comme des oiseaux, et ça c'est certainement mon plus beau souvenir. En tant qu'entraîneur, je pense que c'est peut-être d'avoir vu mon fils sauter à l'âge de 5 ans et demi. Et du coup, je me suis un peu revu quand j'ai commencé. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Ouais.
Qu'aimez-vous dans ce sport ?
Ce que j'aime dans le saut à ski, c'est que déjà, on s'élance dans une pente qui est assez raide. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis après, on va toucher un autre élément en l'air. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est différent. Ensuite, on retrouve le sol. Donc c'est un sport qui demande beaucoup de concentration, beaucoup d'équilibre et aussi de calme. Il faut essayer de se recentrer, d'être un peu dans sa bulle. Et voilà, c'est quelque chose qui me plaît parce que autour du saut à ski, pour être bien équilibré, bien concentré, on va travailler beaucoup de choses. Et du coup, c'est quelque chose qui peut aussi aider au-delà du saut à ski, mais dans d'autres disciplines et puis dans la vie de tous les jours.
Combien d'athlètes entraînez-vous et quel est votre programme de la semaine ?
Donc, j'entraîne environ entre 10 et 15 athlètes, jeunes de la vallée de Chamonix. Et le programme de la semaine, en général, on s'entraîne le lundi soir en saut à ski. On s'entraîne le mercredi après-midi aussi en saut à ski, mais on essaye de faire aussi de l'entraînement physique. Donc on fait des bondissements, des sprints, de la pliométrie, des étirements, du gainage abdominaux, un peu de concentration. Et aussi le samedi matin ou après-midi, ça dépend. Ça, c'est l'entraînement tout l'été. Et comme j'ai un autre travail à côté l'hiver, on pratique tous les entraînements le soir, pareil, entre 2 et 3 fois par semaine.
Merci d'avoir répondu à mes questions et belle saison d'hiver.
Merci beaucoup et puis j'espère que vous allez bien profiter de la neige aussi pour skier, s'amuser, sauter.
Il suffira étincelle, et d'amour, d'amour.
Nous sommes toujours en direct de Globule Radio à Salvan et vous venez d'écouter Allumer le feu de Johnny Hallyday. Par la suite, vous allez écouter l'interview de Adrienne.
Rebonjour, je vais vous présenter mon interview du 11 octobre avec Bertrand. Bertrand est chef d'exploitation au domaine des planards et il a répondu à toutes mes questions sur la luge sur rail. C'est quoi une luge sur rail ?
Une luge sur rail, c'est une installation de sport, de loisirs. Pour faire en sorte que les gens puissent s'amuser.
Pourquoi y a-t-il une luge sur rail ?
Il y a une luge sur rail en remplacement d'une ancienne luge d'été, qui était une luge de type à auge, qui était existante déjà sur le domaine des planards.
En quelle année la luge sur rail a-t-elle été construite ?
Cette luge-là date de 2011.
Quelle est la vitesse maximale ?
La vitesse maximale d'une luge, c'est environ 35 km/h. Les luges sont bridées, elles ne peuvent pas aller plus vite.
Quelles sont les consignes de sécurité avant le départ ?
Les consignes de sécurité qu'on donne aux passagers avant le départ, c'est de bien attacher leur ceinture, c'est de respecter les distances de sécurité, donc qui sont de 25 mètres entre deux luges, et de bien ralentir avant la gare d'arrivée qui est signalée par plusieurs affichages.
Y a-t-il parfois des accidents ?
Ça peut arriver quand les gens ne respectent pas justement les fameuses consignes de sécurité qu'on vient de citer juste avant.
À quelle période avez-vous le plus de fréquentation ?
Juillet-août, c'est là où la luge a le plus de fréquentation. On peut être amené à envoyer quasiment 1500 luges par jour.
Ah d'accord. Serait-il possible de nous présenter votre journée type, s'il vous plaît ?
Une journée d'exploitation de la luge, ça commence par le matin, tous les essais réglementaires qu'on a à faire, les contrôles pour pouvoir ouvrir la luge en sécurité. Donc on a des contrôles sur les rails, on a des contrôles aussi sur tous les véhicules. On a 49 luges, on sort jamais les 49 luges toutes d'un coup, mais pour une bonne exploitation, on sort environ 35 luges. Donc on a beaucoup de choses à vérifier luge par luge. Après, une fois que tous ces essais-là sont faits, on peut ouvrir à la clientèle.
D'accord. Où peut-on trouver vos horaires d'ouverture ?
Sur notre site internet, www.planard.fr.
Est-ce que vous êtes ouvert l'été comme l'hiver ?
Oui, la luge sur rail, contrairement à l'ancien type de luge qu'il y avait avant, qui était ouvert que l'été, on avait tendance du coup à appeler luge d'été, est ouverte aussi pendant la saison d'hiver.
Comment faites-vous quand il neige sur les rails ?
Eh ben, l'hiver, c'est un peu différent de l'été. En plus de tous les contrôles qu'on doit faire avant l'ouverture aux clients, on doit s'assurer que la piste est correctement déneigée et qu'il n'y a pas de présence de givre sur les rails, pour assurer un bon freinage des luges. Donc on va souvent prendre les pelles, déneiger tout le rail et attendre que le givre s'en aille avec un petit rayon de soleil. C'est pour ça que l'hiver, on ouvre la piste de luge que les après-midi.
D'accord. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions.
Up in the sky, there is a village. And the people there are blue, I believe it's true. Up in the sky, people are happy, they love to sing, and there is no need for a king. Up in the sky, nothing is insane, like a rocket-driven plane, you can fly above the rain. Up in the sky, you just feel fine, there is no running out of time, and you never cross the line. I never want to die, I wanna live in the sky. Up in the sky you can fly, you will make it if you try. In the sky you are far away. Up in the sky you can sing and you can do everything. And no matter what you say, it's true, I'm going to the blue. There are no cars and no phones, and you cannot be controlled. Up in the sky, you just feel fine.
is no money making crime, but a lot of good wine. I never want to die. I wanna live in the sky. Up in the sky you can fly. You will make it if you try.
De la musique 77 Bombay Street Up in the Sky.
Et de cette émission aussi. Alors, merci de nous avoir écoutés et bonne journée.
Bonne journée.